Vous écoutez Parle-moi de ça, c'est moi, Marcel Richard, votre animateur, puis je vous apporte un podcast pour les curieux qui veulent apprendre sur toutes sortes de sujets de des experts et des non-experts, mais juste du monde intéressant. Je vous apporte des invités d'ici en Acadie et partout de la francophonie. Merci d'être là avec moi et on y va! Bonjour et bienvenue à un nouvel épisode de Parle-moi de ça. Dans cet épisode-ci, j'ai été me trouver un expert au Québec pour me parler du revenu de base. C'est quelqu'un que j'ai trouvé qui avait fait un TED Talk, puis j'ai trouvé ça intéressant, alors je l'ai invité à venir au show et il a venu. Alors cette semaine, j'ai le plaisir d'avoir avec moi Jonathan Brun. Jonathan est cofondateur de Revenu de base Québec, un organisme sans but lucratif qui fait la promotion du revenu de base au Québec. Il est également directeur francophone de UBI Works, c'est un autre organisme sans but lucratif qui travaille sur le revenu de base à l'échelle canadienne. Jonathan est cofondateur et PDG de Mnemonic, une entreprise qui offre des services de veille réglementaire et des outils de conformité en environnement, santé, sécurité et en qualité. Dans l'émission, on parle de c'est quoi le revenu de base, puis comment est-ce que ça diffère des systèmes sociaux qui sont existants déjà aujourd'hui. On parle des difficultés d'implémenter quelque chose comme le revenu de base, puis les difficultés de financer quelque chose comme ça. On parle aussi des taxes, puis des systèmes monétaires, puis dans l'émission, Jonathan explique le rôle que les taxes jouent. J'aimerais noter que j'ai trouvé ça vraiment intéressant, puis j'ai fait un peu de recherche sur ça. Puis Jonathan le propose comme la manière que c'est, mais en faisant un peu plus de recherche, je vois que c'est quand même une théorie, puis une théorie qui n'est pas vraiment acceptée par tous. Alors, je vais mettre ça comme peut-être petit avertissement, ça reste une théorie qui est quand même populaire assez, mais pas nécessairement acceptée par tous. Alors, sans plus tarder, voici ma conversation avec Jonathan Brun. Suis-je avec Jonathan Brun. Jonathan, tu es quelqu'un que j'ai découvert online à regarder pour des vidéos sur le Universal Basic Income ou le revenu de base. Puis, tu as fait un TED Talk, comme 6 ans passés maintenant peut-être. Pourrais-tu nous expliquer c'est quoi le revenu de base pour commencer?
Le revenu de base, qui a plusieurs noms. Il y a des gens qui ont appelé ça l'allocation universelle ou le revenu minimum garanti. Puis, il y a différentes versions, mais en principe, un revenu de base, c'est un montant d'argent qui est donné à tous les membres de la société. Donc, c'est universel. C'est inconditionnel. Il n'y a pas de condition pour le recevoir. Tant qu'on est membre de la société, on le reçoit. Et c'est individuel. Donc, c'est un versement à un individu et pas à un ménage ou à une famille. Donc, ça, c'est vraiment les trois principes de base. Ensuite, on peut rentrer dans les détails, mais il faut imaginer qu'à chaque mois, les gens recevraient un certain montant d'argent dans leur compte de banque, peu importe s'ils soient riches, pauvres, noirs, blancs, hommes, femmes, etc. Et on aurait ça de l'enfance jusqu'à notre mort.
Alors, Jonathan, je me demande, où est-ce qu'est venu ton intérêt de t'impliquer dans la cause du revenu de base?
J'ai découvert l'idée vers 2012. Le concept du revenu de base n'est pas une nouvelle idée. Ça date de peut-être 300 ans environ. Mais en 2012, en Suisse, il y a des citoyens qui ont fait une pétition pour avoir un référendum national sur la question du revenu de base. Et lorsque c'est advenu, il y a eu beaucoup de couverture médiatique. Donc, c'est comme ça que j'ai découvert l'idée. Et j'ai trouvé ça très intéressant comme idée. Je crois que ça permet de résoudre plusieurs problèmes dans notre société, plusieurs problèmes dans notre système de filet social, les différents programmes qu'on a qui sont donnés par les gouvernements fédéral, provincial ou municipal ici au Canada. Et donc, c'est vraiment une idée qui m'a intéressé parce que ça pourrait nous aider à combler des lacunes ou des écarts dans notre système actuel. Ça ne va pas tout résoudre, mais ça pourrait mettre une fondation sous les pieds de tout le monde et leur permettre de poursuivre leurs rêves, leurs ambitions, d'aider leurs proches, etc. Donc, je trouve que c'est une idée qui pourrait avoir beaucoup d'impact pour la société à long terme.
J'ai aimé aussi ton histoire de Martin, je ne sais pas si tu allais le nommer, mais de ton TED Talk, tu parles de ton ami Martin. Mm-hmm. Puis, le côté émotionnel de ça, je suis curieux si que ça a vraiment fini de chercher ou c'est une bonne histoire pour compter ton TED Talk.
Non, c'est une vraie histoire. J'ai un principe dans ma vie de ne jamais mentir, donc okay. C'est une vraie histoire. J'ai changé le nom de la personne, c'est tout. Mais oui, donc dans l'histoire que je raconte dans mon TED Talk, j'avais un ami d'enfance qui s'appelle Martin. Et puis, j'ai vu que sa vie était beaucoup plus difficile que la mienne, parce que même moi, mes parents, j'ai eu la chance de naître dans une famille qui était quand même assez aisée. Et lui, ses parents étaient divorcés. En tout cas, bref, il n'avait pas beaucoup d'argent, c'était pas facile. Et j'ai vu l'impact que ça a eu sur sa vie. C'était un jeune homme brillant, très intelligent, qui probablement aurait pu faire plein de choses dans sa vie et peut-être le fera. Mais c'est certain qu'il y avait un handicap. pas un handicap physique ou mental, mais juste un handicap financier qui a un impact sur la santé mentale de la famille et la santé mentale de l'enfant et les opportunités qu'il a. Et maintenant, moi, depuis ce TED Talk, j'ai eu un enfant, mon premier enfant, et déjà, je vois les avantages de naître et de grandir dans une famille stable, financièrement stable au minimum, émotionnellement stable. C'est un immense impact. Et les enfants qui n'ont pas ça, ça peut vraiment détruire leur vie. Et si on veut parler de revenu de base, un programme qui n'est pas tout à fait un revenu de base, mais qui a certaines similarités, c'est le système, le Canada Child Benefit Plan, en français, je me souviens jamais du nom, mais bref, le programme fédéral qui donne jusqu'à 7 000, 8 000 $ par enfant en dessous de 13 ans, qui est assez récent, je veux dire, ça date depuis de nombreuses années, mais ils l'ont bonifié il y a quelques années. Et les études, notamment un groupe avec qui je travaille, UBI Works, ça veut dire Universal Basic Income Works. On a fait une étude sur l'impact de ce programme, puis c'est absolument immense. Je veux dire, l'impact qu'on va avoir sur la vie des enfants en donnant cet argent aux gens qui en ont besoin. Ça crée de la stabilité mentale à la maison, ça crée les opportunités pour les enfants de mieux manger, de participer à des activités, etc. Donc, établir cette fondation en dessous des pieds des familles, des jeunes et de tout le monde, je suis convaincu que ça va avoir un immense impact si on le met en place.
Je pense que oui aussi, parce que on dirait que c'est ça qui est... Je pense que la position contre du revenu de base, c'est il y a beaucoup de gens qui vont penser, ben moi, je travaille dur pour mon argent, j'ai travaillé dur pour mes études, j'ai travaillé dur pour tout ce que j'ai eu. Alors, pourquoi est-ce qu'il y a quelqu'un qui va juste avoir ça gratuitement? Mmh. Les opportunités qui sont données à des gens qui sont dans des conditions plus favorables, c'est facile à oublier, mais c'est vraiment impossible à dénier qu'il existe. Parce que, tu sais, ça te rend d'un système, d'une manière, d'une position d'avantage, puis de pouvoir essayer de donner une meilleure position aux gens qui n'ont pas eu ces avantages-là. Puis c'est ça, je trouve, qui est intéressant. Puis, je suis curieux si que, comme le système de bien-être social qui existe, qui serait probablement remplacé par un revenu de base, comment est-ce que ça serait différent pour essayer d'égaliser un peu ou pour donner un peu d'une boost aux gens qui sont d'une situation plus défavorisée?
Oui, donc des problèmes comme le bien-être social, bon, il y a le problème essentiel que ça ne donne pas assez d'argent à quelqu'un pour vivre ou pour survivre, on devrait dire. C'est, les montants, bon, ça varie un petit peu, mais grosso modo, on parle de 700 $ par mois. Alors déjà, il y a simplement un problème, c'est pas assez d'argent. Donc les gens finissent par travailler au noir, par faire d'autres choses, avoir beaucoup de stress psychologique parce qu'ils ne peuvent pas payer leur loyer ou bien manger, etc. L'autre problème majeur avec le bien-être social, c'est que ça stigmatise les gens. Aller demander de bien-être social, je pense qu'il y a personne qui est fier de faire ça. Ouais. Donc ça stigmatise les gens et ensuite ils ont un petit peu honte, ça va avoir un impact encore une fois mental, mais potentiellement sur leur... comment ils se perçoivent, leurs valeurs et leurs ambitions. Ça coûte cher à administrer. Il faut valider les choses. Donc, il y a plein de problèmes avec le bien-être social. Ce que je raconte, c'est pas des découvertes. On connaît ces failles depuis très longtemps. Et en effet, un revenu de base pourrait enlever beaucoup de ces problèmes, résoudre beaucoup de ces problèmes. Et on n'aurait pas ce stigma. On n'aurait pas ces coûts administratifs, etc. Mais je ne sais pas si j'ai complètement répondu à votre question, mais j'ai, en tout cas, au point de vue du bien-être social, c'est certain qu'un revenu de base, on pense que c'est beaucoup mieux.
Parce que c'est aussi intéressant du point que je lisais, où ce que le bien-être social, c'est que ça donne une couverture, mais si tu fais $1 de plus que le minimum que tu peux avoir, tu perds tout. Alors, il y a plusieurs gens qui se disent, je n'ai pas avantagé d'aller travailler à une job qui ne paye pas beaucoup pour peut-être même avoir beaucoup plus de dépenses, ou ce que tu as besoin de te voyager au travail, ou tu as besoin des habillements, des choses comme ça. Est-ce que le revenu de base, si tu gagnes de l'argent, ça vient comme bonus jusqu'à un tel point. Habituellement, là, c'est toujours, il y a plusieurs modèles. Mais je trouve que ça, c'est un côté intéressant du revenu de base. Puis, c'est quoi ce qui serait comme les plus grosses difficultés à surmonter pour implémenter un revenu de base aujourd'hui?
Oui, tes points sont tout à fait corrects dans le sens que si on gagne plus d'argent, on perd nos prestations et ça crée plein de problèmes. Les plus grandes difficultés à implanter un revenu de base aujourd'hui, je pense que bon, il y a une question culturelle, comme tu l'as mentionné tout à l'heure, dans le sens que les gens disent, ben moi je travaille pour mon argent, je travaille fort, pourquoi d'autres personnes auraient droit à de l'argent gratuit? Alors ça, il y a un élément culturel, quasiment politique, qu'il faut résoudre. Et puis le deuxième élément important, c'est il faut que le mode de financement du revenu de base soit durable. Et ça, c'est un grand sujet qui peut devenir un peu plus complexe, mais il faut qu'on puisse le financer d'une manière qui va aider la société à avancer, à aider la société à devenir meilleure, plus productif, plus sain, etc. Donc, la manière de le financer est absolument critique. Et jusqu'à temps qu'on s'entende sur la manière de le financer, le revenu de base va rester comme un petit peu un concept théorique. On voit aujourd'hui avec les programmes qui ont été mis en place pour COVID, donc CERB, SUSE, les différents programmes, on voit que quand le gouvernement veut faire quelque chose, le gouvernement peut faire quelque chose. Donc, on a quand même beaucoup d'options économiques, politiques, mais c'est une question d'avoir les bonnes circonstances et d'avoir un plan d'attaque qui va fonctionner à long terme. Donc, je sais que je reste un peu vague, mais je peux rentrer dans les détails un petit peu, mais donc, les plus grandes difficultés, c'est vraiment une question politique et culturelle à la fin de la journée. C'est une bataille ou un débat politique et culturel plus qu'autre chose.
Penses-tu que COVID a aidé le côté culturel à adopter ou à vouloir adopter un revenu de base?
Je pense que la situation COVID, oui. De manière générale, oui, ça a aidé. Dans le sens que ça nous a permis de voir que le gouvernement peut faire beaucoup de choses si le gouvernement le souhaite et peut le faire rapidement si le gouvernement le souhaite. Donc, ça, c'est un élément important. Le deuxième élément, et ça, je pense, est absolument critique et c'est quasiment à l'échelle planétaire, c'est pas spécifique au Canada, c'est que COVID a changé notre perception de l'économie et de l'argent. En général, les gens, monsieur, madame, tout le monde, ne comprennent pas ou ne connaissent pas comment l'argent est fait, comment l'argent est conçu, créé, géré. Et ça crée beaucoup de problèmes parce que si on n'a pas une compréhension commune de c'est quoi l'argent, ça vient d'où, comment c'est géré par le gouvernement, comment c'est créé. Ensuite, c'est très difficile d'avoir des débats ou des discussions sur comment dépenser cet argent, comment l'utiliser. Alors, et je serais content d'en parler en plus grand détail, mais je pense que COVID a eu ces deux impacts. Ça nous a permis de voir que le gouvernement peut faire beaucoup de choses très rapidement s'il le veut. Et ça a changé notre perception de c'est quoi l'argent et comment le gouvernement peut gérer l'argent.
Ben, j'aimerais ça que tu ailles en plus en détail. J'ai curieux, comme j'ai déjà regardé un peu à ça, mais j'imagine que c'est quelque chose qui est quand même, comme tu dis, monsieur, madame, tout le monde ne connaît pas. Alors, je suis curieux, c'est comment créer de l'argent, comment c'est les revenus des taxes ou on parle de vraiment imprimer l'argent à ce point-là. Là, c'est...
Yeah. Donc, on pourrait faire un podcast sur ce sujet, mais,
oui, c'est sûr.
Mais la compréhension que la majorité des personnes ont, et c'est pas de leur faute, c'est ça qu'on enseigne dans les écoles, c'est que l'argent a été développé parce que moi, j'avais un poulet et toi, tu avais une vache et moi, je voulais échanger contre un camion. Et donc, on avait besoin d'un moyen d'échange pour mettre la valeur sur les différents objets. Donc, ça, c'est qu'est-ce qui est littéralement dans nos textes scolaires à l'école. Mais ce n'est pas vrai. Ça n'a jamais été le cas. Il n'y a aucune preuve historique, anthropologique qui démontre que l'argent a été développé comme ça. L'argent a été développé dans les temples en Babylone pour comptabiliser les différentes choses. On a combien de vaches, on a combien de trucs de foin, on a combien de grains pour la saison. L'argent est un système de comptabilité. C'est juste des avoirs et des débits, des crédits et des débits. C'est tout. Et comment on crée l'argent? Ça, c'est une question que moi, je trouve très intéressante. Anthropologiquement parlant, historiquement parlant, la façon dont les gouvernements ont créé l'argent, c'est que le gouvernement a donné de l'argent. Moi, j'invente une monnaie, je veux dire la monnaie de Jonathan. Je le donne à mon armée, okay? À mes employés. Alors, à l'époque, les employés de l'État, c'était surtout des personnes liées aux militaires. Je donne ça à l'armée. Ensuite, je dis à tout le monde, vous devez payer des taxes et vous devez le payer dans la monnaie de Jonathan. Alors, le seul moyen d'obtenir la monnaie de Jonathan, c'est d'aller faire des choses pour les soldats, okay. Obtenir la monnaie et le donner au gouvernement. Et si on paye pas les taxes, on vous envoie en prison. Donc, c'est comme ça qu'on crée une monnaie qui va circuler dans l'économie. Et c'est encore le cas. Mais il faut que les gens comprennent que les taxes ne payent pas pour les services du gouvernement. Ça, c'est quelque chose que les gens pensent et c'est ça qui est dans les médias. En réalité, les taxes sont là comme un moyen de contrôle de la société. C'est pas une mauvaise chose. Hein. C'est juste un moyen de contrôler l'inflation, de contrôler comment les gens peuvent dépenser leur argent. Mais toute monnaie, en tout cas, moi je parle des pays comme le Canada et les États-Unis, toute monnaie canadienne est créée par le gouvernement du Canada. Et le gouvernement du Canada finance ses services en créant de l'argent. Et ensuite, on taxe, mais pas pour récupérer l'argent. On taxe pour contrôler l'inflation, pour gérer la société. Parce que si on ne taxait pas, il y aurait trop d'inflation et les prix seraient exorbitants. Donc, ça, c'est la réponse un peu courte, mais si on regarde historiquement, c'est comme ça que l'argent a été créé, géré, et les taxes sont là pour contrôler l'inflation, surtout pas pour financer les dépenses du gouvernement. Et là, je parle des gouvernements comme le Canada et les États-Unis qui créent leur propre monnaie. Si on parle de comme le Québec ou le Nouveau-Brunswick qui ne créent pas d'argent, là, oui, les taxes sont nécessaires pour financer les activités du gouvernement. Mais moi, je parle à l'échelle du Canada. Alors, j'espère que c'est clair. J'essaie de simplifier ça le plus possible.
C'est intéressant, puis j'aime ça. J'aime ça d'y penser. J'ai jamais vu ça de même ou j'ai jamais pensé à ça comme ça. Puis je suis curieux. On dirait que je vais aller plus cru, mais je sais pas comment convoluted ça va finir à rentrer là-dedans. Parce que je comprends que les gouvernements impriment de l'argent puis ça augmente l'inflation. Puis ça, je comprends, puis je suis curieux de ce qui se passe avec COVID de ce côté-là d'une manière, parce que on voit le prix de toutes les choses maintenant être après d'augmenter à des prix exorbitants. Tu gardes le bois à tripler. Il y a des choses comme ça qui augmentent, puis veux pas tout ça. On utilise le bois pour faire beaucoup de choses. Le marché immobilier après monter énormément, puis ça, c'est de l'inflation à la fin, parce que tout va monter. Le loyer va monter, puis si le loyer monte, mais tout, les salaires doivent monter. Ça crée une inflation que je suis curieux. Je n'ai pas regardé beaucoup, mais comment loin ça va aller. Puis, comment est-ce que les taxes allant être utilisées pour diminuer cette inflation-là?
Bon, qu'est-ce que le gouvernement va faire? Je n'ai aucune idée. Mais l'inflation à la fin de la journée, et je ne suis pas économiste, je ne suis pas un expert, mais l'inflation à la fin de la journée, en général, c'est qu'il y a trop de demandes pour la fourniture, les supplies. Donc, à la fin, on voit ça dans l'immobilier en ce moment, où tout le monde veut acheter une plus grande maison parce qu'il travaille à la maison, là, je simplifie bien sûr. Et donc, on voit le prix de l'immobilier qui monte beaucoup. Le bois qui est utilisé principalement en construction a beaucoup augmenté parce que tout le monde fait des rénovations, tout le monde veut construire. Donc, il y a des éléments qui sont plus à court terme et des éléments qui sont plus à long terme. Le gouvernement pourrait faire des choses pour contrôler l'inflation. C'est une question politique. Donc, par exemple, il pourrait taxer les maisons d'une certaine taille, par exemple, pour décourager les gens à avoir des trop grandes maisons et faire trop d'expansion. Les gouvernements pourraient taxer les gains en capital sur la résidence principale pour décourager la spéculation sur les maisons. Donc, il y a plein de choses que le gouvernement pourrait faire pour décourager. Et un exemple que j'aime citer, c'est que quand l'impôt aux États-Unis était à 94% pour le plus haut niveau, et donc ça, c'était juste après la Deuxième Guerre mondiale.
OK, wow.
L'impôt était tellement élevé que au-dessus d'un certain montant de salaire, et là, on parle de millions de dollars dans les années 50, donc c'est beaucoup, beaucoup, là. Au-dessus d'un certain montant de salaire, il n'y avait aucun intérêt de donner une augmentation de salaire à cette personne parce que 94% allait au gouvernement. Donc, la conséquence, c'est pas que le gouvernement recevait plus de recettes fiscales parce qu'il y avait beaucoup de taxes sur les salaires élevés. La conséquence, c'est que les salaires élevés n'étaient jamais versés parce que la personne n'allait pas en bénéficier. Alors, les outils fiscaux ou fiscaux, j'aurais dire, plutôt, ils peuvent avoir un impact très important sur les dépenses et l'activité économique sans nécessairement générer des revenus pour le gouvernement. Donc, je sais, bien sûr, c'est un sujet qui est vaste et complexe, mais le gouvernement peut contrôler l'inflation s'il le souhaite. C'est des questions politiques à la fin de la journée. Et là, le budget fédéral a été dévoilé hier, le 19 avril, et on a vu quelques mesures, mais pas beaucoup, pour contrôler l'inflation dans l'immobilier. Donc, ça va être intéressant de voir comment ça se développe dans les années à venir, mais c'est certain qu'on risque d'avoir plus d'inflation dans certaines choses comme les maisons et à la bourse, on voit aussi beaucoup d'inflation.
OK. Si on retourne, j'irai là-dedans. Ouais. Je pourrais parler longtemps de temps, je trouve ça vraiment intéressant. Puis, je suis curieux pour le revenu de base, où ce que les gens ont cette idée ici que je pense qu'ils se disent comme les riches pourraient le financer parce qu'on voit les Jeff Bezos, puis on se dit, ce gars-là a tellement d'argent, je sais pas si tu as vu l'exemple où ce qu'il monte comme une montagne de riz, puis disent que chaque grain de riz, c'est 100 000 $. Il dit, tu sais, si tu veux s'acheter un auto de 300 000 $, puis tu ramasses trois grains de riz, puis ça peut pas être différent, ça fait rien, là. C'est comme, c'est insignifiant de le montant d'argent que c'est, puis pour tout le monde, un auto de 300 000 $, ça se conçoit même pas. Alors, je suis curieux si c'est faisable de pouvoir utiliser une méthode de taxation ou une manière de faire que les personnes qui ont des sommes d'argent incroyables qu'ils ne pourront jamais utiliser dans leur vie, est-ce qu'il y a une manière de les faire financer un peu le revenu de base pour essayer d'égaliser un peu la disparition des riches et des pauvres?
En théorie, oui. En pratique, c'est toute une autre question. Et la raison pourquoi c'est une autre question, parce que c'est et là, ça devient un petit peu mon opinion personnelle, mais il y a plusieurs éléments qui sont en jeu. Donc, un, le système global de transfert d'argent où les gens peuvent déplacer de l'argent relativement facilement d'un endroit à l'autre, ça devient relativement difficile pour les autorités fiscales d'aller chercher de l'argent. Si on disait demain à Jeff Bezos, ben on va prendre 95% de ta richesse, ça te laisse quand même X milliards de dollars. Lui, il déplacerait son argent ailleurs. Et c'est déjà protégé de 55 millions de façons avec des spécialistes dans le domaine. Donc, toute action a une réaction. Et ça, c'est très vrai dans le monde fiscal. Et donc, il faut bien réfléchir à c'est quoi la réaction des personnes et du système lorsqu'on applique des mesures fiscales. Et alors, avec des gens comme Jeff Bezos ou des personnes très riches, oui, on pourrait faire plein de choses. On pourrait mettre des taxes sur la richesse. On pourrait mettre des taxes très élevées. On pourrait faire plein de choses. Mais c'est quoi la réaction? Alors, c'est un sujet qui n'est pas simple. Si c'était facile, je pense que le gouvernement le ferait. Mais il y a d'autres options. Il faut pas nécessairement penser qu'il faut taxer ces gens pour financer un revenu de base. Le gouvernement pourrait tout simplement imprimer l'argent et donner à tout le monde. Il y a absolument rien légalement qui empêche le gouvernement de faire ça. L'avantage de faire ça, c'est qu'on n'enlève rien de personne. On est juste en train de donner les choses. Et je pense qu'on sait que c'est beaucoup plus facile d'enlever des choses des gens que de donner des choses. Parce que si toi, tu perdre ta maison ou perdre des revenus, ça a beaucoup plus d'impact émotionnel que si on donnait juste des revenus supplémentaires à tout le monde. Donc, tout ça pour dire que oui, en principe, c'est possible, mais en pratique, c'est très difficile de le faire et c'est très difficile de prévoir les impacts de toutes les mesures fiscales.
Mais qu'est-ce qui arriverait si que le gouvernement ferait ça, juste imprimerait l'argent pour financer ce programme-là? C'est quoi ce qui arriverait à l'argent que tout le monde a, on va dire? Ça serait de l'inflation?
Oui, donc probablement il y aurait de l'inflation. La question, c'est comment l'inflation va se présenter et quelles mesures fiscales est-ce qu'il faut en mettre en place pour réduire l'inflation ou contrôler l'inflation. On veut avoir un petit peu d'inflation dans la société parce qu'on veut inciter les gens à investir pour faire fructifier leur argent et pour développer l'économie. Donc, on veut un petit peu d'inflation. On veut certainement pas zéro ou un déflation, donc négatif. Alors, il faut parrainer un revenu de base avec des mesures fiscales qui vont contrôler l'inflation. Parce qu'en ce moment, avec CERB et avec les gens qui travaillent à la maison et qui dépensent moins d'argent s'ils ont encore leur emploi, ils travaillent à la maison, ils font pas de voyage, ils vont pas au restaurant, etc. On voit que les gens sont prêts à payer plus pour les actions en bourse, ils sont prêts à dépenser pour leur maison, etc. Et ça crée, on voit de l'inflation dans les actifs. Et un revenu de base général pour tout le monde pourrait mener à de l'inflation. Alors, il faut le parrainer avec des mesures fiscales qui vont nous permettre de gérer tout ça. Mais un petit peu d'inflation, c'est une bonne chose. Si on avait une augmentation du salaire des travailleurs en bas de l'échelle, ça a beaucoup d'impact parce que quelqu'un qui gagne 20 000 $ par an, s'il y a une augmentation de 10 000 ou 20 000 $ c'est un immense impact sur sa vie. Quelqu'un qui gagne déjà 200 000 $ 20 000 $ de plus, ça change pas grand-chose. Il va le mettre dans son compte d'épargne, il va l'investir à la bourse. Donc, tout ça pour dire qu'on peut pas juste faire le revenu de base. Il faut également mettre en place plein d'autres mesures pour gérer l'argent qui va être émis aux personnes.
OK. Mais ça, je suis curieux, c'est qu'on se dit que les riches sont après, ils se trouvent des manières à sauver les règles fiscales qu'on essaie d'établir, ils se trouvent des manières à les éviter. Puis à la fin, c'est souvent la classe, on sent comme si c'est la classe moyenne qui finit par payer la majorité de ces dépenses-là. Mais si qu'on arrive avec un revenu de base, c'est que là, si tu prends encore plus de la classe moyenne pour la donner à la classe défavorisée, puis je dis pas que c'est pas une bonne idée non plus, mais c'est qu'on dirait que tu continues à grandir l'écart entre les riches puis les pauvres, puis je pense que c'est ça qui fait peur aux gens. Puis c'est une peur réelle, ça.
Oui, non, et c'est pour ça que, selon moi, en tout cas, c'est absolument essentiel que le revenu base ne soit pas financé avec des taxes et avec des impôts. Il faut sortir de ce paradigme où on pense que dès qu'on veut faire des dépenses supplémentaires au gouvernement, il faut taxer. Et où est-ce qu'on taxe? En général, c'est la classe moyenne parce que c'est la plus grande pourcentage de la société. Tu sais, ça représente, on va dire, 65% de la société. Alors, il faut sortir de ce paradigme. Une façon de le faire, c'est on dit on va juste imprimer l'argent et puis on va le donner à tout le monde. En contrepartie, on peut mettre des mesures fiscales sur les riches, sur des très grandes maisons, sur ta troisième voiture, etc. Il y a plein d'options. et utiliser cet argent pour équilibrer un petit peu le système. Mais en effet, il faut absolument pas que le revenu de base soit perçu comme un transfert de la classe moyenne aux personnes en précarité, parce que c'est pas ça l'idée. L'idée, c'est beaucoup plus comme l'assurance maladie ou le droit de vote. Tout le monde a le droit de vote, qu'on soit riche ou pauvre. C'est un droit, civique en étant canadien, canadienne. Et le revenu de base, ça serait semblable. Donc, ton droit en tant que Canadien, canadienne, ça serait d'avoir un certain montant d'argent à chaque mois qui te permettrait d'avoir juste les essentiels de la vie. Par la suite, bien sûr, il faut quand même travailler, t'éduquer, etc., puis contribuer à la société. C'est pas un problème de retraite. Ouais. Mais c'est le même concept d'un certain, une fondation en dessous de tes pieds. Même chose à l'assurance maladie. Si t'es malade, tu peux aller à l'hôpital, il y a pas de facture, tout est couvert, plus ou moins. Donc, c'est un élément de notre identité nationale. Il faut vraiment percevoir le revenu de base plutôt comme ça, selon moi, en tout cas.
Je trouve ça super intéressant à faire de la comparaison au système médical où ce que tous les gens ont droit à avoir une santé, oui. Plus ou moins, on va dire. Puis, tu sais, on en a bien des problèmes et le système médical pareil, mais que tu sois riche ou pauvre, tu peux aller à l'hôpital puis avoir des traitements. Puis, j'ai pas regardé à ça, mais qu'est-ce que c'était l'implémentation de ça? Les gens étaient, il y avait des gens qui étaient vraiment contre ça, puis c'est quoi ce qui a été fait pour essayer de passer ça, puis c'était somewhat ou un peu similaire à implémenter un revenu de base.
Moi je ne suis pas un expert ou un historien sur l'implantation de l'assurance maladie. Bien sûr, qui a commencé au Saskatchewan avec Tommy Douglas et ensuite qui a été pris par le fédéral. Mais est-ce qu'il y avait des gens qui étaient contre ça? Oui, absolument. La majorité des médecins étaient contre l'assurance maladie parce qu'ils voyaient ça comme un ça allait contrôler les médecins, tous les médecins qui travaillent pour le gouvernement, et puis ça allait limiter leur revenu, leur potentiel de gagner de l'argent, etc., et toute la bureaucratie qui vient avec. Et on voit récemment avec les États-Unis, avec Obamacare, la difficulté de mettre en place un système d'assurance maladie. Donc oui, il y avait beaucoup de gens qui étaient contre ça. Comment est-ce qu'ils ont surmonté? Je ne suis pas un expert dans le domaine, mais à la fin de la journée, c'est une bataille politique. Donc, il faut que le gouvernement décide, on veut faire ça, et que le gouvernement obtienne assez d'appui dans la société, pas juste les électeurs, mais les différents influenceurs, on va dire, pour le mettre en place. Mais c'est une décision gouvernementale, politique, et il faut mobiliser les gens pour qu'ils soient en faveur. Et on voit, par exemple, hier, avec l'annonce de un système de garderie nationale à 10$ basé sur le modèle du Québec. Ça fait 40 ans qu'on en parle, mais là, finalement, ils vont le faire. À la fin de journée, c'est une décision politique et il faut juste s'assurer que le gouvernement ait assez d'appui pour rester au pouvoir et le mettre en place.
OK. Puis, est-ce que tu vois qu'il y a de plus en plus de gens qui sont intéressés? Parce que tu as référé à la Suisse, puis j'ai regardé ça tantôt, puis je sais pas si, je pense que c'est ça que peut-être après de me tromper d'histoire, mais que la Suisse, ils ont passé le vote, puis ça a été comme refusé à quoi comme 75% versus 25, là, de quoi comme.
Ouais.
Puis, je suis curieux si que les numéros, si le Canada essaye de regarder à ça, c'est quoi ce qui semble être l'intérêt, puis c'est quoi ce que les pourcentages que ça ressemble peut-être aujourd'hui versus peut-être avant, puis si que ça. Oh, j'ai juste après de me demander si que ça semble qu'il y a un intérêt accru sur le revenu de base au Canada.
Ben, je pense qu'il y a un intérêt qui va en augmentant. Oui, la Suisse a voté contre le revenu de base. Et il faut noter que la Suisse est un pays quand même assez conservateur de nature, mais quand même, ça avait l'appui de 25% de la population, ce qui n'est pas rien. Et ils sont partis de zéro. Je veux dire, en 2012, personne en Suisse connaissait le concept de revenu de base. Ils sont allés de 0 à 25% de soutien en 3 ou 4 ans. Donc, c'est quand même pas rien. Et il y a de plus en plus d'intérêt pour ça, pas juste à cause des écarts riches-pauvres, mais également l'automatisation des industries, les pertes d'emplois à haute valeur, etc. Et puis, à la convention du Parti libéral du Canada, ils ont voté pour une politique de revenu de base. Même chose au congrès du NPD. Donc, il y a de plus en plus de soutien. Ça ne veut pas dire que ça va se faire demain. Et je dirais que le revenu de base peut paraître simple en concept. On dit, c'est de l'argent qui va à tout le monde. Mais quand on rentre dans les détails, ça devient assez complexe. Et le plus gros défi, c'est de décider un moyen de le financer. Parce que la façon dont on va le financer va déterminer la nature du programme. Et on est encore trop dans ce paradigme de les taxes, on doit le financer avec les taxes. Et selon moi, si on essaie de faire ça, ça ne va pas fonctionner politiquement et économiquement. Donc, c'est ça un petit peu le défi selon moi. C'est, on est pris un petit peu dans une situation où, en concept, nous sommes tous d'accord qu'un revenu de base est intéressant, mais en pratique, comment est-ce qu'on le fait? Comment on le finance? Et c'est là que le vrai débat commence.
Même le côté d'égalité, on va dire, si ça serait un programme fédéral où ce que ça coûte bien plus cher à rester à Toronto que rester à Moncton ou Nouveau-Brunswick, tu sais. Alors, de ce côté-là, ça, c'est difficile parce que peut-être, disons que c'est un 1 000 $, mais un 1 000 $ au Nouveau-Brunswick, tu peux peut-être vivre, par mois, on va dire, tu peux peut-être vivre OK, mais à Toronto, tu peux vraiment rien faire avec ça.
Ouais. C'est certain qu'il y a des enjeux géographiques, même chose si on habite dans le Grand Nord, puis... Mais le revenu de base, ça va pas résoudre tous nos problèmes. Je pense qu'il faut quand même laisser de la place aux villes puis aux provinces de modifier, de bonifier, dépendant des pas juste de la géographie, mais des besoins des gens. Alors, on propose pas d'annuler tous les programmes. Si on a un handicap, si on a des enfants, il faut garder de la flexibilité. Le revenu de base, c'est vraiment juste une base sur laquelle on peut bâtir tout un système.
OK. Parce qu'il y a eu des essais, je pense, des années 70 au Canada où ils ont remplacé l'assurance-emploi avec une sorte de revenu de base. Puis, ils ont eu des bons succès de ça. Mais je regarde aussi comme en Finlande, qu'on fait ça récemment, qu'on a eu comme des pas vraiment de succès plus que ça. Puis, je suis curieux, c'est quoi ton opinion sur ça? Puis, si il y a eu d'autres essais qui sont plus intéressants peut-être que ceux-là?
Ouais. Donc, il y a eu des projets pilotes, en effet, dans les années 70 au Manitoba, près de Winnipeg. Il y a eu des essais récemment en Finlande, en Namibie et dans d'autres endroits au monde. Il y a encore, en ce moment, il y a des essais qui se font en Californie, aux États-Unis. Et il y avait un programme en Ontario tout récemment, mais qui a été annulé par le gouvernement de Doug Ford. Donc, oui, il y a différents projets pilotes. De manière générale, les projets pilotes démontrent que les gens travaillent légèrement moins, mais souvent, c'est parce qu'ils restent à l'école plus longtemps, les gens qui pourraient sortir de l'école pour aller travailler. Et puis, ils prennent plus de temps pour passer avec leur famille ou pour investir dans leur éducation. Dans les années 70, on voyait plus de divorces des femmes qui laissaient leur mari parce qu'à l'époque, c'était principalement les maris qui travaillaient. Donc, les femmes étaient un peu prises avec leur mari s'ils voulaient avoir de l'argent. Et donc, il y a, de manière générale, c'est des résultats assez positifs. Je pense qu'il faut garder tout ça dans un contexte que c'est des projets pilotes pour des villes ou des régions. Faire un revenu de base à l'échelle d'un pays ou d'une plus grande société, en tout cas, ça serait très différent. Parce qu'on parle, you know, si on le donnait à tout le monde, c'est certain qu'il va y avoir l'inflation, c'est certain que ça va avoir plein d'effets. Le côté coût, le côté financement va être beaucoup plus complexe. Donc, je pense que c'est difficile de prendre des projets pilotes et ensuite d'extrapoler et dire, ben ça va être les conséquences pour toute la société. Alors, voilà, mais les résultats de manière générale sont positif, mais certain que c'est pas une révolution. C'est pas, on donne le revenu de base, puis demain, tout va bien, tout le monde est content et tout le monde peut faire ce qu'il veut. C'est pas ça non plus. Donc, c'est une étape. Selon moi, c'est la prochaine étape dans le développement de la démocratie. Mais c'est une étape.
Mais je me demande, parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens aussi qui se disent comme, OK, ben, si quand ils donnent l'argent, les jobs qu'il y a peut-être pas beaucoup de monde qui veulent faire, tu sais, les dirty jobs ou les choses que les gens, c'est pas intéressant pour personne, mais l'argent fait que ça va être, ces jobs-là, ça va devenir, tu vas avoir besoin de payer beaucoup plus parce que là, les gens, même si c'est des emplois que tu n'as pas besoin de beaucoup de qualifications, personne ne veut le faire. Hein, puis si ça ne paye pas beaucoup plus que juste rester chez toi, hein, on dirait les gens vont quand même vouloir faire ces jobs-là.
Yeah, non, tout à fait. Donc, si on donnait un revenu de base, vraisemblablement des emplois peu payés qui ne sont pas très intéressants, le coût va augmenter, les gens vont juste refuser. On le voit déjà avec CERB un peu. Donc, j'avais une réunion avec les personnes du gouvernement, puis il y a plusieurs entreprises qui se plaignent qu'ils ne peuvent pas avoir de travailleurs au salaire minimum parce que les gens préfèrent rester sur CERB à 2 000 $ par mois. Donc, c'est certain. Si on regarde des pays où il y a un salaire minimum beaucoup plus élevé, donc par exemple l'Australie qui a un salaire minimum d'environ 23-24 $ à l'heure, le coût pour des choses de base comme un café, aller à Tim Hortons ou l'équivalent de Tim Hortons en Australie, c'est beaucoup plus cher. Oui, c'est plus cher. Mais je pense que la réalité qu'on vit aujourd'hui, c'est que beaucoup de services qu'on a, les gens sont sous-payés et les gens devraient avoir le droit, si on travaille à temps plein, ils devraient avoir le droit d'une certaine qualité de vie. C'est pas correct, c'est pas moral qu'on demande aux gens de travailler 40 heures par semaine et ils sont encore dans la pauvreté, dans la précarité. Le salaire minimum, bon, dépendant des provinces, c'est environ 23 000 $ par an. Et certain que si on habite dans une grande ville, ça, c'est la pauvreté. Donc, oui, ça va augmenter le coût de certains services. Certaines entreprises vont pas pouvoir fonctionner dans le sens qu'ils vont pas avoir des travailleurs assez peu chers. En ce moment, on comble beaucoup de ces postes avec l'immigration. Les gens immigrent ici pour différentes raisons et ils font les jobs sales que nous voulons pas faire.
Mmh. Mais aussi l'automatisation, je pense, va rentrer plus en jeu parce que là, si ça te coûte trop cher pour tes employés, mais tu vas essayer de trouver une manière technologique de les remplacer. Puis là, tu finis avec juste moins de jobs de disponibles. Puis je suis curieux parce que là, maintenant, quand on dirait l'automatisation puis le AI qui après vraiment faire des... Je pense que pourrait déplacer beaucoup de choses. J'ai peur que j'ai un peu comme... Tu sais, ça fait... Toute l'évolution humaine que les gens disent que la technologie va être trop remplacer de job, puis on dirait que ça avance, mais là, on dirait le AI, il apporte même que comme, tu sais, qu'un AI peut mieux analyser une radiographie qu'un radiologue, ben là, tu es comme, OK, tu as un médecin spécialisé qu'un AI peut remplacer une bonne partie de ta job ou une partie de ta job, ben, ce que tu dis comme, si un radiologue peut se faire remplacer, il y a pas mal de jobs qui peuvent se faire remplacer, puis quelle partie que ça va jouer sur avoir besoin de essayer de garder les gens, de donner une manière de vivre aux gens que quand ces jobs-là se font juste éliminer.
Oui. Donc, en effet, on voit ça dans plusieurs domaines. Mais la façon auquel il faut réfléchir à ce problème, selon moi, c'est pas penser au job en tant que tel. Il y a plein d'industries qu'on a automatisées au cours des 100 dernières années, qui auparavant, on avait des centaines de milliers d'emplois, souvent bien payés. Il faut penser plus à comment est-ce qu'on fait avancer la société. Et quand je dis avancer, je veux dire comment est-ce qu'on va améliorer la qualité de vie de tous les membres de la société. Et en général, si on peut automatiser quelque chose, on devrait l'automatiser et libérer ces personnes pour aller faire des emplois ou du travail qui va ajouter plus de valeur à la société. C'est des questions politiques et économiques à la fin de la journée. Mais si un ordinateur peut faire le job, pourquoi on demanderait à quelqu'un de le faire? Ça n'a aucun sens. On devrait s'assurer que cette personne puisse obtenir de l'éducation et qu'il souhaite avoir et aller faire la carrière qu'il veut avoir. On va toujours avoir du travail. Je veux dire, il faut pas avoir l'illusion que, ah, OK, si on automatise ces postes, on va tous aller à Cancun. Je veux dire, il va toujours avoir du travail. Il y a tellement de choses à faire, que ce soit construire des logements abordables, construire des systèmes de transport à haute vitesse, faire de l'énergie renouvelable, créer des garderies. Je veux dire, je prends ça comme exemple très simple. Au Québec, on a un système de garderie à 10 $ par jour. Ben ça, c'est plein d'emplois qui améliorent la qualité de vie des familles et des enfants qui ont plein de bénéfices pour la société à long terme. Donc, on pourrait automatiser X nombre de postes dans telle industrie et ensuite, ces personnes où peuvent aller travailler dans des garderies. Bon, là, c'est un peu simpliste comme exemple. Mais il y a plein de jobs qui ne sont pas comblés en ce moment, mieux s'occuper des personnes aînées, nettoyer les rues, etc., etc. Donc, il n'y a pas un manque de travail. C'est que le travail peut être mieux distribué. Et si on peut automatiser certaines tâches pour libérer certaines gens pour travailler sur d'autres choses, ben tant mieux. Et il faut juste s'assurer qu'on distribue la richesse avec des systèmes fiscaux, avec le revenu de base, qui va garder le système en équilibre, si on veut.
Mais est-ce que c'est idéaliste de penser que quelqu'un qui a conduit un camion pour 25, 30 ans de sa vie, qui se fait automatiser par des camions qui se conduit eux-mêmes, va vouloir aller faire quelque chose d'autre, s'entraîner pour faire quelque chose d'autre pour peut-être un 10 ans de sa vie qui reste de travail, tu sais, des choses comme ça, je pense que ça va être difficile vraiment.
C'est certain. Il ne faut pas se faire d'illusion que le camionneur qui fait ça depuis 30 ans va devenir un développeur informatique. Là. C'est pas ça que je dis. Mais peut-être, oui, mais je veux dire, c'est peu probable. Mais là, c'est juste un exemple, mais on parle à l'échelle de la société, on parle de millions de jobs. Puis on peut juste regarder concrètement des industries qui ont été complètement changées par l'automatisation. Donc, l'industrie du shipping, là, excuse mon français, mais avant le développement du container, encore une fois, un mot anglais, mais avant le développement du container, tu avais des centaines de milliers de personnes qui travaillaient sur les chantiers navals pour embarquer et débarquer la marchandise. Quand on a introduit le container, ça a enlevé comme 90% de ces postes. Et c'était quand même des salaires assez bien payés parce qu'il y avait des syndicats qui étaient très puissants. Et ces gens sont allés dans d'autres industries, etc. Donc, on a fait ces transitions, on les a déjà fait, on va continuer à les faire. Maintenant, c'est peut-être les camionneurs, les radiologues, mais ça va être d'autres personnes dans 10 ans, 15 ans, 20 ans. Il faut pas avoir peur du changement. Il faut juste garder le cap sur comment est-ce qu'on améliore la qualité de vie pour la majorité ou la grande majorité des gens dans la société. C'est ça l'objectif. L'objectif, c'est pas de conserver le poste de Monsieur Bob. Là. Si on fonctionne comme ça, on va jamais avancer.
OK. J'aime ça parce que moi aussi, je me dis si je vais aller à l'épicerie puis je peux faire mes propres groceries, là, je peux juste aller les self-serve, puis c'est correct. Ça me sauve du temps. J'aime aussi bien ça. C'est pas quelque chose que... Il y a des gens qui disent comme non, je veux pas remplacer, personne perdre son emploi, mais en même temps, je peux le faire moi-même, puis pourquoi est-ce que j'aurais besoin de quelqu'un qui le fasse pour moi? C'est si un système est là que je peux le faire moi-même puis juste faire avancer ça plus vite, aussi bien de le faire comme ça. Mais c'est il y a des gens que si le niveau, le degré de difficulté d'avoir une job ou d'obtenir une job, c'est des choses qui se remplacent plus, qui sont beaucoup plus difficiles à avoir, mais là, peut-être que t'es encore après te séparer les gens défavorisés. Tu les empêches même d'avoir un emploi simple parce que les emplois simples n'existent plus.
Ce qui est intéressant avec l'automatisation puis le AI, tout ça, c'est que c'est pas... Il y a beaucoup d'emplois simples qui sont très difficiles à automatiser. Si on parle à des gens qui font le ménage, à des gens qui ramassent les déchets dans les rues, des gens qui travaillent dans les centres de tri, qui sont tous des jobs extrêmement importants. Je peux garantir que si les gens ne ramassaient plus les déchets, on aurait des immenses problèmes. Donc, on a plein de jobs qui sont très importants pour le bon fonctionnement de la société et qui sont très difficiles à automatiser. Et puis, nettoyer des graffitis. En tout cas, il y a plein de choses qu'on peut faire qui ne demandent pas un haut niveau d'éducation, qui ne demandent pas des compétences très élevées. Mais ces gens devraient avoir le droit à une certaine qualité de vie s'ils sont prêts à travailler.
Mm-hmm. Oui, pour sûr, parce qu'on le voit même avec le COVID. Ce qui était intéressant, c'est que tu sais les gens qui se faisaient souvent payer le moins étaient là après travailler parce que tout le monde était chez eux, tu sais après travailler de la maison ou après travailler même avec charge réduite, tandis que les gens dans les épiceries étaient encore là après de faire ça. Les supply chain pour le manger, tu es obligé d'être établi quand même. Puis tu te dis comme ces gens-là se font le salaire minimum, mais ils sont là après travailler parce qu'il y a beaucoup de cols blancs, qu'on va dire, qui sont chez eux en sécurité. Ça, c'est drôle, la valorisation de la société met sur certains emplois quand ils sont aussi importants que d'autres. Puis je trouve ça triste un peu de la manière que ça fonctionne, mais je pense qu'il y aurait toujours des gagnants puis des perdants à la vie parce que dépendant qui ce qui fait les règlements, il va les faire favorables pour eux. Là.
Oui, tout à fait, mais ça, c'est pas récent. Je pense que COVID a mis ça un petit peu dans notre face, dans le sens que on a été confronté à ça, mais le salaire que les enseignants reçoivent à l'école est clairement pas assez élevé. Le salaire des infirmières, c'est pas assez élevé, je veux dire, pour le travail qu'ils font, l'importance et l'impact sur la société. Il y a des salaires qui devraient franchement être bonifiés de 25-30%, et on devrait réduire les salaires de certaines personnes qui, selon moi, en tout cas, n'ajoutent pas beaucoup de valeur à la société. Mais comment on le fait? C'est quoi les mesures fiscales? C'est quoi l'impact politique? C'est ça le défi. Je veux dire, personne propose de retourner à l'Union soviétique ou au Cuba ou des trucs comme ça. Parce que si on met trop de contraintes, si on met trop de taxes, ben là, toute l'économie va ralentir et s'écrouler. Donc, c'est ça le balance qu'il faut chercher. Puis on peut regarder d'autres pays, surtout les pays nordiques en Europe, tout ça, et qu'est-ce qu'ils ont réussi à faire. Mais il n'y a pas de pays où tout est parfait, ça n'existe pas. Alors, il faut juste identifier comment est-ce que nous, on peut améliorer la situation au Canada, compte tenu du contexte dans lequel on vit.
OK. C'est quoi ce qui serait ta vision du revenu de base? Comment est-ce qu'on ferait, c'est quoi ce qui serait la timeline, on va dire, de l'implémentation d'un revenu de base? Idéal à toi, c'est comment est-ce que ça se ferait faire?
Ben, je pense que, j'essaie d'être réaliste dans la vie et avec le revenu de base. Je pense qu'idéalement, il faut transformer certains de nos programmes pour avoir un petit revenu de base qui ne serait pas suffisant pour que les gens puissent survivre dessus et ensuite l'augmenter progressivement. Et idéalement, je le ferais avec un système de dividendes. Dans le sens que, et ça, c'est pas une idée que j'ai inventée, c'est un Américain, Peter Barnes, qui a développé un petit peu cette idée. Le concept, c'est pour financer le revenu de base, on devrait créer un compte d'épargne qui reçoit des revenus de nos ressources communes. Et donc, quand je dis ressources communes, je parle des ressources naturelles, comme ce qu'on exploite, les minerais, le pétrole, etc. La vente du spectrum télécommunication qu'on vend aux enchères, aux Bell et Rogers, etc. L'émission des permis environnementaux qui permet aux entreprises de polluer. Et donc, tout ce qui impacte les communes ou tout ce qui impacte la société en général, on pourrait prendre un pourcentage de ces revenus, pas tout, et les verser dans un compte qui va ensuite verser des dividendes aux membres de la société. Donc, c'est comme nous sommes tous des actionnaires dans le Canada, comme si le Canada était une entreprise, et on reçoit des dividendes. Et ces dividendes, ça serait notre revenu de base. Donc, on commence en le finançant de cette manière. Et l'avantage, c'est que on ne finance pas avec des impôts et des taxes. On finance juste avec des redevances sur nos ressources communes. Et au fur et à mesure, avec le temps, ça va augmenter et les dividendes vont augmenter. Et c'est durable. Politiquement, je pense que c'est faisable. Et certains pays ont fait des choses un peu semblables avec des revenus du pétrole. Donc, l'Alaska, la Norvège et certains pays arabes. Donc, c'est faisable, je pense, philosophiquement, politiquement et économiquement.
Mais je pense que même l'Alberta a déjà fait ça, où est-ce qu'ils ont eu des bonnes années de pétrole, où est-ce qu'ils ont redonné aux citoyens?
Je ne sais pas s'ils ont donné directement aux citoyens, peut-être, mais l'Alberta, je prendrais Horizon. Ils avaient l'idée de faire un fonds d'épargne avec les revenus du pétrole, mais ils l'ont jamais vraiment fait, ou ils l'ont fait, mais avec un niveau beaucoup moins élevé que, par exemple, la Norvège. Alors, je ne sais pas s'ils ont déjà versé de l'argent directement aux citoyens, peut-être. En Alaska, ils le font. Ils le font depuis 30 ans, où ils versent des dividendes d'environ 2 000, 3 000 $ par an à tous les résidents de l'Alaska.
OK, cool. Alors, je pense que c'est un podcast qui a été quand même heavy assez sur l'information. On va laisser les gens digérer ça un peu. Je t'ai demandé, c'est que où est-ce que tu voudrais diriger les gens, ce qui rentre, savoir, en connaître plus, de savoir si c'est quoi le revenu de base, puis de peut-être s'impliquer d'une manière ou d'une autre. C'est où est-ce que tu aimerais les diriger?
Oui, donc, je dirais, si vous êtes au Québec, il y a Revenu de base Québec, qui est un OBNL dont je suis un des membres. Et on a de l'information sur le site web, vous pouvez vous inscrire à l'infolettre. Et au niveau national canadien, il y a UBI Works, donc c'est ubiworks.ca. Et ça, c'est un groupe pan-canadien dont je suis également membre. Et on a beaucoup d'informations, on a des pétitions en ligne. Et puis, ça serait de vous inscrire sur l'infolettre, signer des pétitions. Puis si vous êtes intéressé à faire du bénévolat, juste nous contacter. On a toujours besoin de gens qui sont prêts à faire des choses. C'est deux organismes que je recommanderais ici au Québec puis à l'échelle canadienne.
Merci beaucoup, Jonathan. J'apprécie ça. J'apprécie ton temps de venir nous parler de ça. Puis c'est quelque chose que j'ai trouvé intéressant. J'irai beaucoup plus loin là-dessus. Ça. Je réalise que c'est quand même un sujet, assez gros sujet pour juste discuter comme ça avec des chiffres des concepts en l'air. Il y a beaucoup de gens qui sont visuels à aller voir. Puis ça. Mais j'apprécie beaucoup ton temps. Merci beaucoup.
Merci beaucoup. Bonne journée.
C'est malheureusement la fin de l'émission. J'espère que vous avez aimé ça. Je vous invite à trouver la page Facebook qui se trouve à marcelrichard.com. Puis dites-moi allô, j'aime tout le temps ça, discuter avec les gens qui écoutent. Aussi, si vous enjoyez les podcasts acadiens, vous pouvez checker acadipod.ca où c'est un regroupement de tous les autres podcasts acadiens de la région. Alors, je vous souhaite une awesome journée, puis j'espère que vous serez à l'écoute la semaine prochaine.